La rétrospective de la tête au carré, la suite cet après-midi avec les événements scientifiques qui ont marqué l'année 2014. 365 jours de science avec les hommes et les femmes qui ont été au cœur de l'actualité et qui sont venus en parler au micro de l'émission. Aujourd'hui, il sera question du climat, de la pollution atmosphérique, du virus Ebola, de la médaille Fields, des avancées dans la biologie de synthèse et d'une découverte autour de la tectonique des plaques. Céline Hila réalise cette rétrospective et le dossier a été préparé par Lucie Sarfati et François Mercier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Pour toute la beauté qu'on délaisse, pour les soleils qu'on n'a pas vus, les passions qu'on n'a pas vécues, pour l'ignorance et la paresse. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. On rit, on rit. Je suis venu tendre et stupide hanter la maison du bonheur. J'y suis entré comme un voleur et j'ai trouvé la maison vide. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. On rit, on rit. Tu m'as dit, regarde la lune. Mes yeux n'ont pas quitté ta main. Reste un regret sur mon chemin. Reste un reflet sur la lagune. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. La vie en rose, mais les couleurs sont ce qu'elles sont. On aime à perdre la raison en désespoir de toutes les causes. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. On rit, on rit. On rit jusqu'à rêver qu'on peut changer de rôle. Pour oublier que tout ça n'est pas drôle. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. On rit, on rit.
On va, on vient, on rêve. Julien Clerc sur France Inter. Et vous êtes bien dans la rétrospective scientifique de la tête au carré avec les faits marquants de l'année 2014. On commence aujourd'hui avec un chapitre environnement très dense. Rapport du GIEC, inondation, pollution atmosphérique. Pour commenter cette actualité dans un instant, je serai avec le météorologue et climatologue Robert Vautard. Et pour démarrer, la voix du climatologue Jean Jouzel.
C'est un rapport de synthèse qui s'appuie sur les rapports de trois groupes de travail, l'un dédié aux aspects physiques du réchauffement climatique, l'autre aux impacts, à l'adaptation, ensuite le troisième aux solutions. Oui. Donc l'idée, c'est pas que ce soit nouveau en contenu, mais c'est vraiment une présentation plus en perspective. Par exemple, c'est assez intéressant de mettre les causes du réchauffement climatique et les impacts en sens, l'adaptation et la lutte contre le réchauffement climatique dans une continuité. Ça montre bien qu'il y a une continuité entre les causes du réchauffement climatique, les impacts et les solutions à mettre en œuvre.
Ouais, 2015, Paris, donc l'année prochaine. Est-ce que c'est vraiment le dernier délai pour s'en sortir ou pas ?
Oui, parce que c'est là que nous devrions mettre en route un accord pour l'après 2020, mais aussi, si possible, prendre des mesures entre 2015 et 2020. Parce que si on n'en prend pas en 2015 et 2020, si on ne réussit pas à ralentir l'augmentation des émissions de gaz carbonique, eh bien, il sera difficile de rester en dessous de 2 degrés.
Même si on arrêtait aujourd'hui toute émission, imaginons vraiment dans un rêve absolu de gaz à effet de serre, de toute façon, la machine est dans
la machine
dans un
est lancée
cycle.
Pour la température de quelques dixièmes de degrés et pour l'élévation du niveau de la mer, pratiquement toujours 10, 20, 30, 40 cm supplémentaires de toute façon.
Jean Jouzel, le mois de septembre a enregistré un record de chaleur planétaire. Ouais. 2014 sera peut-être même une année record. Les impacts, donc là, se font sentir très concrètement, hein, sur des échelles courtes.
Oui, en France, c'est vrai, mais on a ce sentiment, mais c'est surtout au niveau mondial, vous l'avez dit. En fait, on est à quatrième mois record, hein. Mai, juin, août et septembre ont été des mois records par rapport à depuis 150 ans. Et il y a de fortes chances pour que 2014 soit l'année la plus chaude qu'on ait jamais connue.
Le paysage français, vous en parlez aussi dans votre livre, hein, Jean Jouzel, le défi climatique. Il est déjà modifié, au fond.
Il est déjà modifié. Je suis impliqué avec d'autres collègues de l'Institut Pierre-Simon Laplace et de Météo France et du CERFAX dans la rédaction, dans la coordination des rapports sur le climat de la France. Et effectivement, la France n'échappe pas au réchauffement climatique, c'est très clair.
Jamais les Pyrénées-Orientales et l'Aude n'avaient connu ça depuis la grande crue de 99. Une montée des eaux encore plus dévastatrice.
Argelès-sur-Mer, le choc après la crue.
À Rivesaltes, un septuagénaire est décédé au volant de sa voiture. Le ministre de l'Intérieur a promis de déclencher dès aujourd'hui le processus de catastrophe naturelle.
Depuis 18 mois, le ballon est équipé d'un LOHAC. Cet appareil mesure 7 jours sur 7 le nombre de particules présentes dans l'air, du sol jusqu'à 300 mètres d'altitude. Là-haut, l'atmosphère est relativement plus saine. Le record de pollution a été atteint le 13 décembre dernier avec 6 millions de particules fines par litre d'air.
Le 13 décembre à 18h, vous respiriez autant de particules très fines que si vous étiez dans une salle avec 8 fumeurs sans ventilation.
Tous les jours, nos poumons se remplissent de molécules polluantes. Directeur de recherche au CNRS, Jean-Baptiste Renard est l'auteur de l'étude.
On a en fait à peu près 100 à 200 000 particules par litre et on respire à chaque fois 1,5 litre. Et ça, c'est dans une situation de pollution moyenne. Je ne parle que des particules jusqu'à 0,2 micromètres. Vous en avez encore beaucoup, beaucoup plus pour des tailles très inférieures, donc ce qu'on appelle les nanoparticules, et vous pouvez en avoir 10 à 100 fois plus.
Ces nanoparticules sont les plus dangereuses pour la santé. D'après Jean-Félix Bernard, le président d'Air Paris, le réseau de mesure de la qualité de l'air en Île-de-France.
D'après les organismes de santé, plus les particules sont fines, plus elles pénètrent profondément dans les voies respiratoires et donc elles touchent l'épithélium, elles touchent le fond des poumons et les cellules pulmonaires et elles peuvent pénétrer dans le sang, donc se retrouver dans tout l'organisme.
L'Institut de veille sanitaire estime que la pollution de l'air coûte 6 mois d'espérance de vie aux Franciliens. Elle provoque des affections respiratoires et des infarctus.
Bonjour Robert Vautard.
Bonjour.
Vous êtes météorologue, climatologue et directeur de recherche CNRS au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Saclay. Ça veut dire que vous étudiez le temps, au fond, à plusieurs échelles.
Voilà, nous étudions le temps de l'échelle de quelques heures à l'échelle de quelques dizaines, voire centaines d'années.
Oui, donc le local et le très global, la météo et le climat.
Absolument. Hein.
C'est important pour vous d'avoir cette vision justement d'ensemble des choses ?
Oui, parce que la Terre est un système fermé. Hein. Donc les événements qu'on vit à notre échelle sont très importants, mais ils s'inscrivent dans ce climat global, dans cette atmosphère qui est finie et dans laquelle on dépose un certain nombre de substances qui vont la modifier et donc vont remodifier ensuite les effets locaux de la météorologie.
Alors c'est vrai que quand on interroge les scientifiques sur les événements extrêmes en météorologie, ils ont souvent du mal à aller au-delà pour parler justement des conséquences du réchauffement climatique. C'est vrai qu'il faut faire très attention, il faut être prudent et ne pas lier forcément les deux immédiatement.
Non, c'est une science en fait en plein développement, celle de précisément savoir si un événement peut être dû ou quelle part du réchauffement climatique il y a dans un événement donné. On essaye aujourd'hui de le déterminer dans certains événements. On sait le faire par exemple pour des événements comme des vagues de chaleur très extrêmes, comme celle de 2003, mais on ne sait pas bien le faire sur d'autres types d'événements. Voilà.
Alors, cette année a été publié le 5e rapport du GIEC sur les changements climatiques et leurs évolutions futures. Aujourd'hui, il est impossible de nier l'impact humain, justement, sur le climat.
Aujourd'hui, l'impact humain sur le climat est absolument évident et absolument sans équivoque. Et l'homme a contribué au réchauffement des dernières décennies, plus précisément depuis la moitié du XXe siècle. La contribution de l'homme au réchauffement de la planète est majeure.
Oui, c'est donc à l'homme d'essayer de faire en sorte de stabiliser, évidemment, les émissions de gaz à effet de serre pour stopper, en tout cas, ce processus de réchauffement. Il est encore possible de le faire aujourd'hui, vraiment ?
Oui, il est encore possible de le faire aujourd'hui et nous sommes dans une phase très critique puisque les décisions qui vont être prises dans les années qui vont venir vont impacter les décennies à venir et surtout la vitesse et l'intensité des mesures qu'on devra prendre ensuite si on attend encore.
Ouais, l'OMM, donc l'Organisation Météorologique Mondiale, a annoncé que les 10 premiers mois, les 11 premiers mois d'ailleurs maintenant de l'année, ont été les plus chauds jamais enregistrés. Le 21e siècle rassemble déjà 14 des 15 années les plus chaudes depuis 1880. Ça, ce sont des mauvaises nouvelles quand même pour la planète.
Alors pour la planète, ce sont des mauvaises nouvelles au sens où elle n'a subi un rythme de réchauffement que ça a été extrêmement rapide ces derniers temps et ça continue à l'être d'une part, mais d'autre part aussi par l'accumulation des gaz à effet de serre qui est absolument sans précédent depuis au moins 800 000 ans dans l'atmosphère et dont on craint les effets.
Est-ce qu'il faut craindre une augmentation de la fréquence et de la durée aussi des événements extrêmes, de ces phénomènes-là que nous notons régulièrement, les inondations, les tempêtes?
Alors, pour les événements extrêmes, il faut rester assez prudent. Certains événements extrêmes, on en a la quasi-certitude, comme les vagues de chaleur, sont déjà détectées et déjà attribuées à l'activité humaine, au moins en partie. Pour d'autres événements, c'est beaucoup moins clair. D'abord, pour tout ce qui est événements précipitants, les précipitations, les pluies intenses, il est souvent difficile d'attribuer à l'homme un événement précipitant plutôt qu'un autre. C'est l'augmentation de la fréquence, l'intensité de ces événements qui doit être regardée de près pour les années à venir. Ouais. Alors ensuite, quand on va dans des phénomènes de type ouragan, feu, etc., là, on rentre dans des domaines pour lesquels nos modèles, la capacité de nos modèles est encore insuffisante pour pouvoir dire la réelle responsabilité de l'homme dans l'augmentation soit de la fréquence, soit de l'intensité des ouragans. Nos modèles ne sont pas capables de le dire de façon certaine.
Et quand on regarde dans les archives de la météorologie et du climat, est-ce qu'on peut trouver des périodes un peu similaires à celles que nous vivons actuellement ou est-ce qu'on est vraiment dans un cas de figure totalement nouveau ?
Alors, pour la période instrumentale, c'est-à-dire en gros les 150 dernières années, nous n'avons pas d'équivalent de la température actuelle. Ensuite, on sait que le climat a fluctué avec des variations qui peuvent être aussi élevées que celles d'aujourd'hui. Mais encore une fois, cette image qu'on a de notre climat passé est très parcellaire encore aujourd'hui. Ce que l'on sait, par exemple, c'est que suite à l'évolution de l'orbite terrestre et de sa périodicité, des climats plus chauds qu'aujourd'hui ont existé, notamment il y a environ 120 000 ans. Et on sait par ailleurs que à l'époque, les océans étaient plusieurs mètres au-dessus du niveau actuel, que le Groenland était en très grande partie
vert,
fondu, oui, il y a 120 000 ans, donc il y a donc extrêmement longtemps. Vert, je ne sais pas, mais en tous les cas, les glaces avaient pratiquement disparu. Ouais. Et donc, on prend souvent ces points de repère pour essayer de les analyser, pour savoir ce que c'est qu'un climat chaud. Mais je voudrais quand même préciser une chose, c'est que ces variations naturelles qui peuvent conduire à un climat chaud se produisent avec un rythme d'accélération qui est absolument très, très différent du rythme actuel. Hein. Le rythme actuel, on parle d'un réchauffement potentiel de 4 à 5 degrés en quelques dizaines d'années, voire un siècle, ce qui n'est pas connu, en tout cas de façon précise, dans nos archives climatiques.
Robert Votard, on a également connu des épisodes de pollution très importants à Paris. Est-ce que là aussi, ces événements sont à relier avec la hausse des températures, comme ce mois de mars, par exemple, avec cette pollution en particules ?
Alors, de façon pas tout à fait directe, c'est-à-dire la pollution atmosphérique est liée principalement à l'émission de particules atmosphériques ou de gaz qui peuvent se transformer en particules. Alors, au mois de mars, on a une situation qui est un petit peu spéciale, une stagnation printanière, donc la masse d'air qui stagne, qui recircule, l'air qui va d'Allemagne en France, puis revient en Allemagne, puis revient en France. Et finalement, les polluants s'accumulent sur des très grandes distances. Et parmi ces polluants, on a noté une présence assez significative de polluants dont l'origine est agricole.
Oui.
Alors, il se trouve que c'est la période de l'épandage des engrais. Et lorsqu'il fait chaud pendant cette période, on peut avoir des émissions accrues d'ammoniac, notamment, qui donnent lieu ensuite à des particules atmosphériques. Voilà, alors... Le réchauffement climatique, il a un effet un petit peu indirect dans ce cas-là. Si effectivement la saison, les températures plutôt chaudes se décalent vers la mauvaise saison, oui. Il se peut qu'on soit face à ce type de problème.
Et puis il y a cette étude qui a été publiée fin novembre et qui a comparé donc l'impact sanitaire du pic parisien de pollution de décembre 2013 à celui du tabagisme passif. C'est une étude qui a beaucoup marqué les esprits. Hein. La comparaison en tout cas a bien fonctionné.
Oui, alors les événements de type polluant en hiver sont d'une nature assez différente. Ils sont beaucoup plus locaux d'une manière générale. Ils sont dus à une pollution effectivement par les particules ou par d'autres polluants comme les oxydes d'azote qui sont émis relativement localement et donc sont peut-être un petit peu plus faciles à contrôler.
Oui.
Voilà.
2015, donc, qui sera évidemment une année très importante pour le climat avec la conférence de Paris et des enjeux très forts. Jean Jouzel en parlait il y a quelques minutes. Merci beaucoup, Robert Votard, pour votre venue aujourd'hui dans la rétrospective de La Tête au Carré.
Voilà, merci beaucoup.
Il est un autre domaine qui a fait couler beaucoup d'encre cette année, celui de la biologie de synthèse. En juin, je recevais le xénobiologiste Philippe Marlière et Thomas Hims, enseignant-chercheur en génomique à AgroParisTech, pour commenter deux avancées majeures. L'une d'entre elles concernait une équipe de scientifiques qui a réussi à recréer l'un des 16 chromosomes de la levure du boulanger. Et puis l'autre publication provenait des États-Unis avec des chercheurs qui sont parvenus à ajouter deux nouvelles lettres à l'alphabet de l'ADN en créant un organisme ayant un code génétique partiellement artificiel dans son ADN.
Alors voilà, l'ADN, bon, c'est la molécule qui contient les gènes, connue maintenant depuis plus de 60 ans en termes moléculaires, sur le plan moléculaire. Et elle est constituée d'une succession de petites molécules qu'on appelle des lettres, pour simplifier. Et elles ont quatre noms compliqués, et on les résume sous quatre lettres, qui sont les initiales de ces quatre noms compliqués, le A, le T, le C et le G. Et ça, c'est un des grands principes unificateurs du vivant. Pour tous les organismes sur Terre, de la bactérie au séquoia, en passant par nous, on a tous
quatre lettres.
Mais
il n'y a que quatre lettres ou on n'a pas encore découvert les autres ?
Il n'y en a que quatre, pour autant qu'on ait fait le tour du vivant tel qu'on le connaisse.
D'accord.
Voilà. Dans certains virus, des bactéries, il y a des tentatives de faire des variations sur le thème des quatre lettres. Mais dans toutes les cellules connues, il y a ces quatre lettres et rien.
Ben justement, c'est ce qu'on fait, c'est scientifiques.
Et alors là,
c'est d'ajouter deux nouvelles lettres.
Exactement, ils en ont rajouté deux. Alors pour l'instant, elles ne servent pas à grand-chose dans l'organisme dans lequel ils les ont rajoutées. Elles sont sur un petit satellite d'ADN qui n'est pas exactement le chromosome principal de la bactérie. Il est là pendant un certain nombre de générations et puis au bout d'un moment, on perd un peu sa trace. Mais voilà, il y a cette acceptation par la bactérie de quelque chose de tout à fait nouveau, ce qui prouve que le vivant explore en permanence.
Oui. En l'occurrence, ce n'est pas le vivant qui explore en permanence. C'est l'homme qui l'a mis dans
les bactéries. C'est une coproduction, je dirais.
Intéressant en termes de coproduction.
Donc, il y avait une bactérie qui a servi à pouvoir créer ces deux nouvelles lettres.
Enfin, en tout cas, à les insérer. Elles ont
été
créées
chimiquement.
Et c'est la bactérie classique du laboratoire.
Hein, c'est
Escherichia coli. Voilà. Et donc, ils ont rajouté ces deux nouvelles lettres. Et si on file un peu la métaphore de l'ADN qui serait la grammaire ou l'alphabet du vivant, on peut dire que voilà, l'alphabet s'est un petit peu agrandi.
Est-ce qu'on peut dire qu'on a dopé l'ADN, Philippe Marlière?
Oui, l'idée de dopage est très indiquée en l'occurrence parce que c'est une seule paire de bases qui a été introduite dans tout un organisme, mais elle s'est propagée. C'est-à-dire qu'il y en
avait
une paire qui s'est devenue deux, quatre, etc. pour un petit nombre de générations. Mm-hmm. Mais donc en fait, il ne s'agit pas seulement d'avoir fait accepter ça à la bactérie, c'est ça le tour de force, bien sûr, assez prodigieux, mais c'est aussi qu'il a fallu satisfaire la physique et la chimie. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris deux trucs qui nous passaient par la tête, l'aspirine et le paracétamol qu'on a propagé dans Escherichia coli. Vous voyez, il a fallu trouver l'architecture chimique. Et ça, c'était un travail, il faut le dire, herculéen.
Donc là, il y a une prouesse très importante.
Qui date d'il y a 2 ans déjà. Mais ils ont trouvé...
Voilà, ça a été publié en tout cas...
Non, mais il y a 2 ans, ils ont trouvé la paire de bases. Et cette année, ils ont publié la propagation de cette paire de bases chez Escherichia coli.
Voilà, ça veut dire qu'il y a transmission en plus de...
Elle est transmise.
De ces deux lettres. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais.
Alors, qu'est-ce que ça peut nous aider à faire plus tard, le fait d'ajouter des lettres à un ADN?
Ça peut donner des possibilités nouvelles à des organismes, tout en sécurisant les choses, puisqu'évidemment, ces lettres-là, elles ne sont pas présentes dans la nature, au sens dans la nature, dans notre environnement direct.
Exemple concret, pour vous comprendre.
Eh bien, si vous avez des bactéries qui deviennent dépendantes de ces bases-là pour leur propagation, pour certains de leurs processus essentiels, imaginons qu'il y ait un problème au laboratoire, une fuite de ces bactéries quelque part, elles seraient tout de suite bien embêtées, elles devraient très vraisemblablement mourir lamentablement très vite, parce qu'elles n'auraient pas le substrat qu'il leur faut pour grandir. Donc ça peut être vu comme une forme de sécurité embarquée.
Alors justement, Romain nous dit, croire que la nature et la biologie de synthèse ne vont jamais interagir, est-ce que ça n'est pas totalement naïf?
Non, c'est le contraire. Je dirais que c'est ce qu'il y a de plus pernicieux dans la pensée en génétique aujourd'hui. C'est tout sauf naïf. C'est qu'il faut se dire que les acteurs du domaine voient ça comme un des défis intellectuels les plus difficiles. Donc, c'est pas on va le faire, il suffit de vouloir et ça va survenir. C'est que ça va être extraordinairement difficile.
Il faut le dire.
Ça va être difficile comme d'aller sur la Lune. Ouais. Mais d'abord, vous vous rappelez, Kennedy disait, si on va sur la Lune, c'est pas parce que c'est facile. On y va parce que c'est difficile. Et donc, si on essaie de faire un confinement génétique, c'est parce qu'on va apprendre, mais c'est surtout que on a comme objectif de faire une sécurité absolue.
Thomas Himes et Philippe Marlière. Autre publication très importante, il faut quand même qu'on en parle avant la fin de ce dossier. En mars, on apprenait qu'une équipe avait réussi à recréer l'un des 16 chromosomes de la levure du boulanger. On a parlé d'avancées spectaculaires. La revue Science a parlé de Mont Everest, de la biologie synthétique. Bon, sauf qu'on ne comprend pas pourquoi, évidemment. Alors, expliquez-nous.
Assembler un chromosome de manière synthétique, ça a été fait chez les bactéries. Ça a été un des travaux de Craig Venter, pour le dire très simplement. Le faire dans une levure, c'est le faire déjà dans une cellule plus compliquée, une cellule qui possède plusieurs chromosomes et un noyau. Et en cela, elle se rapproche beaucoup des cellules des animaux et des plantes. Mmh. Et donc, c'est une étape vers la possibilité de faire de la biologie de synthèse chez des organismes un peu plus complexes que des bactéries.
Moi, j'ai l'impression que cette histoire-là, elle est remarquable du point de vue de l'organisation de la recherche. Et on est qu'au début, c'est un chromosome, il y en a encore, je ne sais pas combien, presque une vingtaine à faire, et c'est un des plus petits. Donc en fait, je crois que ça a été assez survendu. Peut-être que le projet en lui-même est très important, parce qu'à terme, on aura ça, mais pour le moment, le chromosome a été rectifié, il n'a pas été synthétisé complètement,
il a
été transformé.
Thomas Himes et Philippe Marlière, le 2 juin dernier, donc dans La Tête au Carré. Au chapitre sanitaire cette année, c'est le virus Ebola qui a retenu toute l'attention. On y revient dans un instant avec le microbiologiste Jean-François Delfrécy.
Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. Minimum. And you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head. A million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again.
it to the man. All concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they offend. Poppy Yang.
Like you got yang.
Let's stop pretend. The one to pack pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still the name of his basement. The pretty face, man. Claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate men. The sleepy silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again.
C'est Lauryn Hill sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
La suite de la rétrospective scientifique de l'année avec 2014 marquée par la flambée du virus Ebola. Le journal de France Inter le 28 mars.
L'inquiétude en Afrique de l'Ouest à cause du virus Ebola qui a déjà fait 70 morts en Guinée et qui a atteint la capitale Conakry.
France Inter.
Le virus Ebola provoque de terribles fièvres hémorragiques, le plus souvent mortelles. Le virus est réapparu le mois dernier en Guinée. Il a déjà fait 66 morts et certains cas sont signalés dans la capitale Conakry. Mais y a-t-il un très fort risque épidémique? Eh bien non, si l'on en croit l'OMS qui tenait un point de presse aujourd'hui, Solène Lehen.
En effet, les autorités sanitaires pensent que le pic de l'épidémie est passé. C'est seulement la semaine dernière que l'Institut Pasteur a formellement identifié le virus Ebola dans le pays. Mais les premières infections ont eu lieu le mois dernier déjà, sans doute par une chauve-souris, puis par contact d'homme à homme. Au total, pour le moment, on compte 66 morts en Guinée-Conakry. Maintenant que la maladie a été identifiée, la population infectée ou les habitants qui ressentent les premiers symptômes viennent se signaler dans les hôpitaux. Cela permet de mettre les patients en quarantaine et donc de limiter l'épidémie. Mais il faut rester vigilant, estime Sylvain Bèze, directeur du Centre des fièvres hémorragiques virales à l'Institut Pasteur.
Même si le pic a l'air passé sur cette première épidémie, il faut quand même rester prudent dans le sens où on n'est pas à l'abri d'un foyer secondaire qui se déclarerait ailleurs, en particulier dans la capitale, puisqu'il y a des cas qui ont été diagnostiqués. Donc la première épidémie, donc dans ces zones reculées, oui, on dirait que le pic est passé, mais après, il faut faire attention au foyer secondaire.
Attention, oui, car c'est une maladie très contagieuse, sans autre remède que la réhydratation. En général, elle est mortelle à 90%. C'est la première fois qu'elle touche de manière aussi importante un pays d'Afrique de l'Ouest.
Bonjour. L'épidémie d'Ebola, plus grave que veulent bien le dire les chiffres officiels. L'OMS a des doutes, vous entendrez la porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé.
France Inter.
Sous-estime-t-on le virus Ebola en Afrique de l'Ouest? Aujourd'hui, c'est l'Organisation mondiale de la santé, en première ligne, donc bien informée, qui sème le doute. Selon l'OMS, il y aurait plus de cas et plus de morts que ce que veulent bien le dire les bilans officiels en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia. Les chiffres parlent de près de 2000 malades et un millier de personnes déjà décédées de cette fièvre hémorragique. Mais les représentants de l'Organisation mondiale de la santé voient affluer les malades vers les centres de traitement. Fadela Chaïb est la porte-parole de l'OMS.
Tous les cas ne sont pas enregistrés. Pour qu'un cas soit enregistré,
il faut que la personne soit admise dans un centre de traitement. Et du coup, nous pensons que ces personnes qui viennent au centre de santé ont aussi des contacts qui sont potentiellement porteuses du virus. Et du coup, les chiffres pourraient être plus nombreux. Aujourd'hui, on est à plus de 1069 morts. Il faudrait mettre tout en place. C'est faisable, on peut y arriver. Mais c'est une entreprise de longue haleine. Nous n'avons pas encore de tendance qui montre que nous réussissons. Peut-être la seule nouvelle intéressante, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas d'Ebola au Nigeria. Si déjà on arrive à sortir un pays ou deux de la liste des pays qui sont touchés, comme ça on focalise vraiment notre attention sur les pays qui sont aujourd'hui avec beaucoup beaucoup de cas, à savoir le Libéria et le Sierra Leone, ce serait bien.
Une porte-parole de l'OMS interrogée par Olivier Poujade.
Et c'était le 15 août dernier dans le journal de 13h de France Inter. Bonjour Jean-François Delfrécy.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Agence nationale de la recherche sur le sida, directeur de l'Institut de microbiologie et maladies infectieuses à l'INSERM, et vous avez été nommé par Manuel Valls, coordinateur Ebola pour la France et l'Afrique. Décembre 2013, premières infections du virus Ebola en Guinée. Pourquoi le virus s'est réveillé et pourquoi a-t-il eu une ampleur jamais égalée jusqu'alors ?
On ne sait pas très bien, et c'est d'ailleurs ça qui reste inquiétant. Il y a plusieurs explications. La première, c'est que ce virus a toujours existé, hein. Il y a eu plusieurs flambées d'épidémies, mais en général en Afrique centrale. Et les deux explications les plus plausibles, c'est l'augmentation du niveau de vie en Afrique de l'Ouest, qui n'est pas considérable, mais qui a existé, et qui fait que par exemple, la prise de taxi de brousse est plus importante. Donc, les contacts dans la petite région, dans les provinces, sont devenus un peu plus importants qu'avant. Et le deuxième élément, c'est la déforestation, qui est relativement importante aussi dans ces zones, et qui fait que la chauve-souris, qui est le réservoir naturel, qui va bien d'ailleurs avec Ebola, s'est rapprochée des villages et a pu transmettre de façon plus facile à une série d'animaux de brousse et donc à ce moment-là ensuite à une contamination humaine.
Et comment se fait le passage de la chauve-souris à l'humain justement ? C'est via la viande
de
brousse ?
Il se fait via les animaux de brousse qui sont chassés et c'est au moment où ils viennent d'être chassés où il y a beaucoup de sang, ça n'a pas été, c'est pas de la viande cuite et c'est, on estime à ce moment-là que le passage se fait. Bon, la troisième explication évidemment la plus solide, c'est que ça survient dans des pays où des systèmes de santé sont relativement faibles, à la suite à la fois d'opérations de guerre civile, de guerre, et ça reste donc la base quand même. Hein, c'est finalement la réponse sanitaire, c'est fait dans des conditions qui étaient inappropriées, insuffisantes, et qui n'avaient pas été anticipées, comme le font maintenant les pays d'Afrique centrale.
Ouais, le 28 mars, donc, on l'entendait, l'OMS pensait que le pic de l'épidémie était dépassé. On était bien loin de la réalité. Pourquoi cette erreur dans la prospective ?
Alors, il n'y a pas que l'OMS qui s'est trompé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié, en temps voulu, la gravité d'Ebola. Parmi ces gens, il y a moi-même. Alors, donc, c'est pour ça que je me sens très à l'aise pour en parler. Parce qu'on était habitué à finalement des petites épidémies qui s'arrêtaient d'elles-mêmes par faute de combattants en raison de la mortalité élevée qu'il y a toujours eu avec Ebola. Et là, il y a eu une expansion parce que ça a été sous-estimé. Les mesures de précaution sanitaire et de réponse à Ebola, qui sont bien connues une fois de plus dans les pays d'Afrique centrale, ne l'étaient pas dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et il n'y a finalement que MSF qui, honnêtement, a joué un rôle majeur en criant au secours à plusieurs reprises. Mmh. N'a pas été totalement entendu, il faut bien le dire. Et puis ensuite, il y a une réaction de l'ensemble, qui a des grandes organisations internationales ou des organisations de recherche, comme nous, par exemple, où on a commencé vraiment à réagir uniquement à partir de début juillet.
Ouais, c'était trop tard pour réagir ?
C'était tard, hein, c'est clair. On pensait que la réponse, nous, était essentiellement sanitaire et que les questions de recherche n'étaient pas au premier plan. Hein. C'est la raison pour laquelle on s'était posé la question début mai. On avait dit non, c'est essentiellement vraiment des réponses sanitaires. Et puis, en voyant ce qui se passait, on s'est dit non, qu'il y avait aussi des questions de recherche qui devaient exister. Et donc, on s'y est mis à partir de juillet. C'est un peu tard,
oui.
Vieux mot tard que jamais, on s'y est vraiment mis en juillet.
Oui. En tout cas, il y a des messages qui sont assez inquiétants quand on vit comme ça au cœur d'un tel événement, c'est le fait d'entendre par exemple l'OMS se dire dépassé par les événements face à un virus comme ça. Dans ce cas-là, comment on peut envisager l'avenir avec une telle maladie qui se propage à cette vitesse?
Alors, c'est en effet, les mots ont été employés très fort. Hein, on est dans une zone de hors contrôle. Ouais. Ce qui a d'ailleurs laissé entendre qu'on était hors contrôle non seulement dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, mais qu'on pouvait être hors contrôle également en Europe et aux États-Unis. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a fait basculer les gens, c'est quand les pays du Nord ont commencé à s'interroger sur leur propre sort. Hein. Alors qu'avant c'était loin, c'était des pays ouais. où on ne connaît pas bien la carte géographique. Bon, oui on peut être inquiet parce que finalement il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et on peut s'interroger pourquoi d'abord il n'y a que 3 pays et finalement pourquoi ce n'est pas passé de façon plus importante en Côte d'Ivoire. Et si on en connaissait la réponse, on serait content. Là, on ne la connaît pas. Ouais. Donc, il y a une série de questions sur lesquelles on n'a pas vraiment de réponse, y compris maintenant que la lourde machine à la fois de recherche, d'investissements internationaux se sont mis en place.
Jean-François Delfrécy, donc vous avez été nommé coordinateur Ebola pour la France et l'Afrique. Cette mission consiste en quoi exactement?
Alors, elle consiste à coordonner la réponse française à la fois au niveau du territoire français et puis dans notre aide avec les pays d'Afrique de l'Ouest et en particulier la Guinée. Il y a 4 pôles, un pôle diplomatie, entre guillemets, qui est porté par le ministère des Affaires étrangères et qui s'intéresse évidemment à toute l'action qui est menée en Guinée, on pourrait y revenir, et au Mali aussi. Il y a un pôle santé qui est l'organisation de la réponse française en cas de sur les malades suspects, sur la prise en charge des patients dans des unités spécialisées en France. Il y a un pôle sécurité avec un préfet. C'est toutes les mesures de contrôle aux aéroports, sur les bateaux, la viande de brousse qui arrive, les indications qui sont faites sur le ministère de l'Éducation nationale. Et puis un pôle recherche avec Avizon et l'INSERM. Ces 4 pôles assez forts, qui ont chacun leur vie, il y a des ministères derrière ou de grandes institutions de recherche. Et donc le rôle d'un coordinateur, ce n'est pas de s'occuper dans le détail de structures qui montent. Le ministère de la Santé est très bien organisé là-dessus, mais c'est plutôt d'essayer de mettre vraiment comme dans un orchestre toutes ces disciplines ensemble pour que ça soit le mieux coordonné. Et ça tant que le virus sera actif.
On a compris en tout cas en consacrant plusieurs émissions au virus Ebola qu'il était aujourd'hui exclu que ce virus puisse se développer en France comme en Afrique aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça aujourd'hui?
Oui, je l'ai même dit en prenant mes fonctions dès fin octobre. Bon, après, il faut être prudent parce que quand j'entends ce qui a été dit
par
l'OMS en mois de mars, je me dis, mon Dieu, pourquoi je me suis mouillé comme ça? Mais enfin, quand même, j'ai dit qu'il y avait une épidémie majeure qui était dans les pays d'Afrique de l'Ouest, que nous aurions quelques cas en France. Et nous pouvons toujours avoir quelques cas en France, à la fois à partir de patients qui arrivent et qui sont dans la zone où ils ne sont pas encore avec des symptômes et donc qui peuvent passer à travers, y compris les barrières qui ont été mises en place et les contrôles sanitaires qui ont été mis en place, qu'il peut y avoir éventuellement 1 ou 2 cas de soignants qui se contaminent, car c'est aussi une des leçons de cette maladie, c'est que les soignants sont en première ligne en termes de contamination et donc de mortalité, mais que tout ceci ne fait pas une épidémie.
Oui. Comment, Jean-François Delfrécy, vous envisagez 2015 sur le front d'Ebola, précisément?
Alors, 2015, tout l'effort qui a été mis en place, où il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais on sait tous qu'entre les décisions qui sont prises, tant au niveau de la recherche que de l'aide sanitaire qui ont pu être faites, et la réalité du terrain, il y a au moins 3-4 mois, quoi qu'on fasse. Donc, après une période de réflexion et de mise en place, l'effort, par exemple, en Guinée, sur ce que met en place la France en collaboration avec la Guinée, c'est seulement maintenant qu'il se met en place. Donc, on va voir éventuellement les effets de la création des centres de traitement, de 4-5 centres de traitement, d'un centre de traitement des soignants, de la formation, d'un meilleur dépistage des cas contacts. On va le voir maintenant. Et c'est nécessaire parce que cette épidémie, elle se poursuit. Elle se poursuit actuellement.
Ouais. Mais est-ce qu'on est sur une pente descendante
tout
de même ?
Elle est descendante au Libéria. Elle est en augmentation en Sierra Leone. Et elle est à peu près stable en Guinée. Mais en sachant qu'en Guinée, les choses ont changé, c'est-à-dire qu'il y a presque plus de cas dans la région de Conakry, qu'on a énormément de cas dans la Guinée forestière et que nous avons une inquiétude sur la zone de Guinée qui jouxte le Mali, car là, et ça pose la question ensuite de ce qui va se passer au Mali, parce qu'une fois de plus, la réponse, elle ne peut pas être un seul pays, mais il y a beaucoup de passages d'un pays à un autre et c'est une réponse qui doit être au niveau de la région.
Merci Jean-François Delfrécy. Merci à vous. Comment la tectonique des plaques a-t-elle commencé sur notre planète? En avril dernier, le géophysicien Yannick Ricard et David Berkovici de l'université de Yale proposaient le premier modèle qui explique comment la surface de la Terre s'est découpée en plaques. Yannick Ricard et le géophysicien Christophe Vigny venaient nous en parler en juin dernier.
Ne comprendra toujours pas très bien pourquoi la tectonique des plaques existe sur notre planète et sur aucune des objets que l'on a trouvés dans le système solaire. Je sais pas, il y a une vingtaine de corps de planètes ou de satellites de planètes qui sont formés de roches, un petit peu comme la Terre.
Ouais.
Et sur aucune d'entre elles, il n'y a quelque chose comparable à la tectonique des plaques.
Donc c'est une vraie singularité terrestre.
C'est une vraie singularité. Et donc, on a essayé un petit peu dans cet article de comprendre un petit peu les spécificités de la Terre, ce qui faisait que la tectonique des plaques avait pu s'y développer.
Yannick Ricard, cette théorie de la tectonique des plaques, elle est extrêmement récente, ça date des années 60, sauf que bon, elle a été imaginée quand même un petit peu avant.
Oui. Hein. Il y a vraiment je pense que dès que les Européens ont voyagé, ont découvert les Amériques et ont voyagé dans l'Atlantique, immédiatement la similitude des côtes américaines et européennes, africaines a frappé les esprits. Et
similitude de quoi? De vie?
Similitude
de roche?
De forme, simplement de la forme des côtes. Et puis Wegener, au début du siècle dernier, a construit sur cette similitude. Il a observé aussi une similitude des roches, une similitude éventuellement des fossiles, c'est-à-dire jusqu'à une certaine époque, les mêmes fossiles se retrouvaient en Amérique du Sud et en Afrique.
Ouais, c'est-à-dire qu'on pouvait imbriquer les deux continents. Hein.
Voilà. Et puis lorsque l'océan s'est ouvert, alors les fossiles ont divergé parce que les deux continents n'étaient plus en contact.
Cette plaque, ça forme vraiment la première couche de la Terre, c'est ça? On peut voir les choses comme ça?
C'est ça, c'est la partie la plus refroidie de la Terre et donc la partie mécaniquement la plus solide.
Mmh. Pourquoi est-ce que la Terre justement est la seule probablement à avoir ce phénomène de plaque tectonique alors qu'il y en a des traces sur Vénus et sur Mars?
Alors pourquoi? Donc c'est ce que j'ai essayé de répondre à cette question récemment avec mon collègue Dave Berkovici. Donc ce qu'on suggère, c'est que pour fabriquer des plaques, il faut à la fois pouvoir endommager la lithosphère assez rapidement et il faut qu'elle ne se répare pas trop rapidement. Et d'après les calculs que nous avons faits, sur Vénus, la surface de Vénus est beaucoup plus chaude que la surface de la Terre. Et dans ce cas-là, la réparation est très rapide.
Oui.
Donc les zones qui ont été endommagées par des petits séismes, etc., vont se recoller d'une certaine façon.
Vous parlez d'auto-cicatrisation
quasiment. D'auto-cicatrisation.
On pourrait employer ce terme-là.
On peut employer ce mot, voilà.
Ouais.
Donc, on n'arrive pas à avoir assez de mémoire d'endommagement sur des objets chauds comme Vénus.
Mmh.
Donc, la température relativement froide de la Terre est peut-être un élément important sur l'apparition de la tectonique des plaques chez nous.
Et donc, vous proposez un modèle mathématique pour justement expliquer cette lithosphère, donc cette première couche de la Terre.
Oui, en laboratoire, les minéralogistes savent étudier la déformation des petits cristaux qui constituent les roches. Le manteau terrestre est constitué d'une roche assez simple, qu'on appelle péridotite, avec une roche verdâtre, avec des petits grains vert clair qu'on appelle olivine, des grains un peu plus foncés qu'on appelle pyroxène. Et ils étudient les déformations de ce type de grains. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de construire un modèle mathématique qui prenne en compte la répartition de ces grains, leur nombre, leur interaction et l'évolution des propriétés de ce milieu en fonction du temps et des contraintes.
Mmh.
Et on a appliqué ça aux conditions terrestres et vénusiennes. Et observer, par exemple, qu'effectivement, on obtient une tectonique des plaques sur la Terre et on ne l'obtient pas sur Vénus, qui cicatrise trop vite.
Voilà. Donc, c'est important pour comprendre l'origine de la tectonique terrestre.
C'est important pour comprendre l'origine de la tectonique terrestre. La Terre a 4,5 milliards d'années, mais en gros, la moitié des terrains les plus anciens ont disparu. Justement parce que soit c'est des océans, ils sont recyclés perpétuellement par la tectonique des plaques, soit c'est des continents qui ont été déformés par de multiples orogénèses et qui ont été lessivés, érodés, sédimentés, retransformés, etc.
Mais cette tectonique, elle aurait démarré quand alors dans l'histoire de notre Terre?
Alors, comme il y a très peu d'indications des âges les plus anciens, du long Moyen-Âge de notre planète, les avis divergent. Nous avons proposé qu'elle ait démarré environ 1 milliard d'années après la formation de la Terre.
Mmh.
Donc il y a 3,5 milliards d'années.
Démarrage de la tectonique des plaques.
Pourquoi elle n'aurait pas pu démarrer avant alors?
Elle n'aurait pas pu démarrer avant parce que la Terre était trop chaude, elle se réparait trop vite, etc. Il a fallu un certain temps pour arriver à avoir les bonnes conditions. Voilà. De la
Donc ça, c'est vraiment les modèles mathématiques qui parlent. Hein. C'est vous entrez des paramètres de température, de qualité de la roche, et puis on trouve en fait ce scénario.
On trouve ce scénario.
Ce modèle.
Voilà.
Les géophysiciens Yannick Ricard et Christophe Vigny. Suite et fin de notre rétrospective dans un instant avec le mathématicien et médaillé Fields, Arthur Avila. I swore avec Donna et Moore à l'instant sur France Inter et Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de l'émission. On termine cette rétrospective de la tête au carré avec l'un des invités de marque de cette saison scientifique 2014. Il s'agit du mathématicien franco-brésilien Arthur Avila, qui a reçu en août la prestigieuse médaille Fields pour ses travaux dans le domaine des systèmes dynamiques. Il était venu en octobre nous en parler, accompagné par le mathématicien Étienne Gis. C'est le 13 août, au Congrès international des mathématiciens à Séoul, qu'Arthur Avila recevait cette médaille.
Voilà,
on comprend que c'est vous le lauréat, donc hein, c'était en coréen dans le texte. On va voir d'ailleurs que les systèmes dynamiques, c'est presque aussi compliqué à comprendre que le coréen par moment. Arthur Avila, qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans ce domaine des mathématiques très particulier que sont les systèmes dynamiques? Qu'est-ce qui vous a motivé, excité là-dedans, dans cette recherche?
Les systèmes dynamiques, c'est un domaine qui a l'intersection et un contact avec plusieurs d'autres. Et j'aime bien cette interaction entre l'analyse, notamment des probabilités, des côtés plus durs de l'analyse. Il y a aussi des côtés plus soft, disons, là. Et ce sont les techniques qu'on peut utiliser qui m'ont conduit à accepter, parce qu'en étant à l'INPA, où il y a une grande école de systèmes dynamiques...
Donc à Rio de Janeiro.
Oui, ils m'ont naturellement conduit à cela, mais ça a tombé bien avec mes techniques. Et ensuite, j'ai développé une intuition. Donc maintenant, j'aime bien, pour plusieurs gens, j'ai travaillé sur une grande quantité de systèmes dynamiques, pas un seul. Donc je reconnais plusieurs thèmes qui se répètent, comme la renormalisation, c'est un thème qui apparaît, ou... Bon, il y a
je crois que vous êtes spécialiste de quatre grands domaines, c'est ça, des systèmes dynamiques, entre autres.
Jusque-là.
Non, plus.
Plus encore.
on essaye de considérer quelques domaines, mais un des domaines, ça commence par exemple à ma thèse avec des applications très simples, une formule quadratique par exemple, peut donner déjà un système dynamique. Si on le regarde comme équation, c'est trivial, on apprend déjà avant le lycée, je crois. Et après, comme système dynamique, c'est énormément compliqué. Donc c'était un sujet de recherche, il y a encore des choses à découvrir. Même.
Vous êtes donc un chercheur, Arthur Tour à Villa, dans ce domaine. Et vous êtes un trouveur aussi. Hein. Vous cherchez et vous trouvez. Vous avez trouvé beaucoup de choses. Ça vous a donné beaucoup de satisfaction ou il vous reste encore énormément de choses? Et est-ce qu'il y a un problème en particulier que vous aimeriez résoudre là?
Il y a plein de problèmes que j'aimerais résoudre, mais souvent ça ne marche pas comme ça, la recherche. Les grandes questions, on arrive souvent pas en allant directement, mais en travaillant beaucoup sur les domaines, parce qu'en travaillant sur une autre question, on peut découvrir quelque chose qui on peut se rendre compte qu'il pourrait être utile dans une autre situation. Si on va très directement vers le soleil, on va se brûler. Donc, de temps en temps, il faut travailler, mais laisser aussi l'espace à travailler sur des directions un peu à côté, qu'on sait qu'elles sont reliées aussi, et attendre que les choses se mourissent.
Qu'est-ce que vous avez découvert? Tiens, citez-moi une de vos découvertes, par exemple.
Une que c'est facile plus facile à expliquer.
La plus facile à expliquer, oui.
C'est cette question sur les billards, sur les polygones réguliers.
Sur les billards?
Oui, donc ouais. C'est toujours la partie la plus facile à expliquer, disons. Ouais. Mais sur les polygones réguliers, donc c'est un objet assez simple qu'on connaît, hein, et on laisse une particule qui va se promener là-bas selon les lois de façon uniforme, avec les collisions élastiques avec les bords et sans friction, sans rien.
Ah oui, effectivement, donc, c'est facile à comprendre.
Oui, on dirait. Donc, il y a les billards traditionnels, ça serait modélisé sur un rectangle, où je considère les tables pentagone régulier, etc. Et on dit pourquoi c'est différent un pentagone d'un carré, ou un triangle, ou un hexagone, en quoi la dynamique est très différente de celle-là. Et j'ai trouvé quelque chose avec mon collaborateur Vincent Lecroix qui montrait une différence très nette entre les triangles carrés, hexagones et toutes les autres.
Quand vous arrivez à résoudre un problème, seul ou avec des camarades, qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là, avant de le communiquer au monde entier?
D'abord, c'est dur psychologiquement, dans cette partie où il faut vraiment penser où est-ce qu'il pourrait y avoir les problèmes sur ce qu'on est en train de faire.
Et, donc vous faites exploser finalement ce que vous avez découvert.
On cherche, voilà. on a les doutes, on pense, mais peut-être ici c'est pas bon, on a beaucoup de doutes en ce moment. À la place qu'on va finalement l'écrire, les choses sont déjà bien en place. Les problèmes, c'est les bien faire pour que les gens puissent comprendre. Mm-hmm. Et de temps en temps, il y a aussi une esthétique de comment on va écrire.
Ouais. Et le chaos, alors, au cœur de ces systèmes dynamiques, comment il faut le comprendre, Arthur Avila?
Je dirais que souvent, on essaie de retrouver la régularité quand on voit un système qui évolue avec le temps.
Vous parlez souvent des planètes. Alors, il se trouve où le chaos, par exemple, dans un système planétaire?
Donc, d'abord, on voit la régularité quand on apprend à l'école. Donc, on apprend que les planètes autour du Soleil vont faire une ellipse et ça va répéter les périodes. Chaque année, la Terre fait un tour et il n'y a pas beaucoup de choses qui changent à ce niveau-là. Et donc, les gens s'attendent souvent à chercher la régularité dans un système. Il suffit juste de réfléchir beaucoup, de travailler beaucoup, on va trouver sa période, disons. Et donc, c'est ça l'image que souvent les gens ont. Tous les systèmes qui sont décrits à eux doivent forcément être simples. Mais il y a des systèmes qui ne rentrent pas dans ce cadre. Et donc, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un système où il ne va trouver jamais une période ou cette régularité qu'on pourrait s'attendre. Ces systèmes, alors... serait, disons, des systèmes chaotiques. Et quelque chose qui est assez caractéristique des systèmes chaotiques, souvent, c'est que les lois du départ sont assez simples. J'ai parlé d'équations quadratiques, on parle ici des lois de Newton qui sont enseignées assez tôt. Et elles sont simples à décrire les courts termes du système, l'évolution à court terme. Mais à long terme, ce qui se passe, c'est que cette loi, qu'il n'y a pas d'hasard là-bas, il n'y a pas d'aléa, c'est purement déterministe, à long terme, on n'arrive plus à décrire les systèmes de façon déterministe. Pour les décrire, il faut invoquer les lois de statistique, les lois de probabilité, essayer de trouver quelles sont les bonnes lois. Parce que maintenant, on ne peut pas dire exactement où on va être, mais seulement dire sur la probabilité que quelque chose puisse se passer.
Donc, il y a deux comportements, c'est ça, soit un comportement régulier, soit un comportement chaotique. Et vous, votre travail, c'est d'essayer de simplifier le chaos. Est-ce que je peux résumer les choses
extrêmement grossièrement? Non, c'est d'essayer de comprendre si les systèmes
que l'on rencontre dans la nature sont plutôt réguliers ou plutôt chaotiques. Si on est plutôt dans le paradigme de la Terre qui fait un tour autour du Soleil tous les ans, ou si on est plutôt dans un comportement extrêmement complexe et qu'on ne peut décrire que par des arguments de type probabilité.
Voilà les mathématiciens Étienne Gis et Arthur Avila, médaille Fields 2014. Voilà, ainsi s'achève notre deuxième volet de la rétrospective scientifique de l'année. Demain, avant de plonger en 2015, nous revivrons ensemble quelques-uns des moments marquants de cette fin d'année. En attendant, passez une excellente journée à l'écoute des programmes de France Inter. Dans un instant, ce sera Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Et merci à Patrick Henry qui était aujourd'hui à la technique.